Bande Noire, deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons la joie de recevoir Pierre Lemaître. Pierre Lemaître, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous avez la gentillesse de nous rejoindre pour parler, pour qu'on parle ensemble de votre deuxième roman qui vient de paraître chez Calman Névy et qui s'appelle Robe de mariée. Avant de parler du livre, quelques mots sur votre parcours. Je crois que vous avez enseigné la littérature.
Oui, j'ai enseigné. D'abord, merci de me recevoir et bonsoir à tous. Oui, j'ai enseigné la littérature principalement à des adultes puisque j'ai fait de la formation à destination des bibliothécaires des communes de la région parisienne et d'autres régions. Et j'ai enseigné la littérature américaine, l'histoire de la littérature française et même l'analyse du texte littéraire, tout ça pour des adultes.
Alors, un parcours intéressant. Et justement, donc, je suppose, c'est évident, vous devez être un grand amoureux des livres. Pourquoi vous avez choisi, c'est votre deuxième roman, et les deux sont dans un genre particulier, un genre littéraire qu'on apprécie particulièrement ici, évidemment, qui est le polar, le roman noir, plus le roman noir, d'ailleurs.
Oui, plus le roman noir, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, si vous voulez, vous avez très bien vu les choses, je suis un grand amoureux de la littérature, et dans chacun de mes livres, en tout cas pour les deux premiers, j'ai à chaque fois voulu rendre hommage à un genre littéraire. Le premier, Travail soigné, qui était édité au Masque, et qui m'avait valu le prix Cognac, était un roman policier qui jouait avec les codes du roman policier. C'était un espèce d'hommage au roman policier et au grand romancier qui m'avait fait, moi, en tant que lecteur. Le deuxième est un roman plus psychologique. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de faire une espèce de visite dans un des grands compartiments de cet immense archipel qui est le roman policier ou plus justement le roman noir.
Alors, vous avez parlé d'un hommage dans Travail soigné. Vos références, on va aller jusqu'à Dashiell Hammett, ce genre d'écrivain?
Oui, Dashiell Hammett, oui bien sûr, Dashiell Hammett, d'abord parce que du point de vue stylistique, il a inventé quelque chose de tout à fait extraordinaire, hein, du point de vue du personnage, puisque dans Dashiell Hammett, le lecteur est toujours un petit peu en retard sur le personnage, ce qui fait des littératures très, enfin des livres, des romans très, très haletants, et parfois même un petit peu difficiles à supporter parce qu'on est dans une espèce de demande permanente vis-à-vis du texte. Alors oui, Dashiell Hammett, mais un peu plus près de nous, plutôt du côté de John Selroy, du côté de Bret Easton Ellis, mais aussi, vous avez bien vu, du côté aussi de ceux qui sont des grands classiques. Je pense notamment à Gaboriau, par exemple. Il faut savoir que le roman policier a été inventé par un Français, Émile Gaboriau, à la fin du 19e siècle. Et puis plus près de nous, par des gens comme qui sont peut-être moins connus, mais qui sont pour moi des grands, grands du genre, comme William McIlvaney, par exemple.
Un très, très grand romancier. Donc, le titre de ce dernier roman, chez Calman Lévy, Robe de mariée. Je précise, robe de mariée et sans eux. Et ce qui va être terrible, c'est que je ne vais surtout pas expliquer pourquoi. On a déjà le mystère dans le titre. On ne peut pas dire grand-chose de l'histoire. J'ai essayé à tout prix de faire un résumé. C'est impossible, parce que sinon, on va commencer à dévoiler les choses. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a un peu une histoire dans l'histoire, parce que ce que vous avez dit des romans de Dashiell Hammett, j'aurais presque pu le dire pour Robe de mariée. C'est-à-dire qu'on va toujours être un peu en décalage et on a besoin d'avancer pour comprendre. La première partie, on peut quand même un petit peu décrire l'histoire de Sophie. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu?
Oui, on peut dire quelques mots de Sophie. Bon, d'abord, honnêtement, vous imaginez bien, Corinne, que je suis très flatté quand vous comparez mon travail à celui de Dashiell Hammett. Alors bon, il va falloir prendre cette comparaison avec toute la modestie qui convient. On peut dire deux, trois mots, si vous voulez, effectivement, sur la première partie. On fait la connaissance d'un personnage qui s'appelle Sophie, qui a une trentaine d'années. C'est une jeune femme. Oh, j'ai envie de dire, c'est pas une jeune femme tout à fait extraordinaire. Elle est assez banale, elle est très simple, elle est mariée, elle va avoir des enfants, elle travaille. Enfin, c'est l'itinéraire d'une femme relativement ordinaire, sauf que cet itinéraire devient inquiétant parce que depuis plusieurs mois, elle glisse vers la folie. Elle a commencé par perdre des choses, faire des fautes professionnelles. Elle est assez désorientée et surtout, elle ne veut pas le dire à son entourage parce que elle a très peur d'être internée. Et ça, c'est un signe intéressant de sa folie et de la folie tout court. C'est le moment où vous vous coupez du monde extérieur, vous commencez à vous enfermer dans la sphère de la folie qui vous coupe du monde extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre Sophie. Sa folie est devenue meurtrière et Sophie va être très vite, dès les premières pages du roman, en cavale. Et je ne pense pas que ce soit, enfin c'est à vous de me le dire, mais je ne pense pas que ce soit d'effleurer trop le livre que de dire que au cours de cette cavale, elle va avoir une idée qui va lui sembler une idée formidable.
Ah, une idée absolument formidable, qui est un déclic d'ailleurs, qui nous fait tourner les pages et qui fait qu'on n'éteint pas la lumière pour pouvoir continuer et savoir Sophie va-t-elle s'en sortir avec cette idée géniale. Et là, de manière tout à fait machiavélique, tout d'un coup, vous nous abandonnez, vous clôturez cette première partie et on repart quelques années en arrière pour justement essayer de comprendre. Vous avez un petit peu défloré l'histoire de Sophie. Effectivement, on tombe sur un journal intime, enfin le journal de quelqu'un qui, par une espèce de petite lunette, nous raconte comment il se débrouille pour complètement déstabiliser Sophie par de tout petits trucs, c'est-à-dire changer sa voiture de place. Grâce à Internet, apparemment, c'est un grand informaticien, donc il arrive à changer, par exemple, les dates de ses places de théâtre. Et là, on plonge dans ce qui me semble être un des grands sujets du livre, c'est la folie qui guette Sophie. Voilà.
Tout à fait. Tout à fait. Si vous voulez, le personnage dont vous venez de parler, dont peut-être on peut pas aller...
Enfin, allez, on peut dire son prénom. Franck,
bon. Oui, on peut dire son prénom, oui. Il s'appelle Franck. Mais voilà, si vous voulez, le personnage est né, on va plutôt parler du personnage que de parler de l'histoire, parce que après nos auditeurs auraient moins de plaisir à découvrir le livre. Là, pour l'instant, on n'a rien défloré, ils peuvent tout à fait le découvrir en étant des lecteurs, je dirais, naïfs, avec plein de guillemets. Le personnage de Franck est né d'un ouvrage d'un psychiatre qui s'appelle Harold Searle, qui avait écrit au début des années 60 un livre qui avait un titre absolument extraordinaire, qui s'appelait « L'effort pour rendre l'autre fou ». Et ce livre était un livre de psychiatrie. Harold Searle parlait de la schizophrénie et parlait des psychotiques. Mais le livre m'avait d'abord beaucoup frappé. J'avais lu ça pendant mes études. Ça m'avait beaucoup intéressé. Mais surtout, le titre était extrêmement prometteur parce que il représentait cet effort pour rendre l'autre fou, finalement, le désir de tous les grands pervers. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui qu'un grand pervers qui aurait pour espèce de ligne de conduite de rendre l'autre fou. Il faudrait savoir comment il le ferait et surtout pourquoi il le ferait et enfin, est-ce qu'il pourrait jusqu'au bout.
Oui, c'est un petit peu aussi la question suivante, c'est-à-dire que vous imaginez plein de trucs qui d'un côté paraissent faciles et là, j'avoue avoir eu quelques bouffées paranoïaques, je dois le dire, parce que je me suis dit, mais finalement... Est-ce que, avant d'écrire, il a pensé, est-ce que toutes les petites choses qui vont, entre guillemets, manipuler Sophie et la faire douter complètement d'elle-même et de sa raison, est-ce que c'est crédible? Est-ce que quelqu'un pourrait s'acharner sur moi comme ça? Est-ce que vous avez essayé, non pas de tester ces choses-là, mais beaucoup réfléchi à tous les détails, toutes ces choses qui vont lui arriver?
Oui, alors j'ai beaucoup réfléchi à ça. Alors ce que vous dites est intéressant parce que je crois que c'est à la fois un moteur de l'écriture et un moteur de la lecture. Dans l'écriture, je ne vous cache pas que quand je suis sur ce personnage de grand pervers, je dois dire honnêtement, il faut que je le dise, on est en secret là, on discute vous et moi, on n'a pas d'auditeur.
Il nous manque juste le whisky à la main.
Il y a du plaisir, si vous voulez, à manipuler ces grands personnages. De la même façon, je crois que le lecteur a du plaisir à voir le machiavélisme d'un autre personnage. Parce que le livre, c'est hors de nous, c'est pas dans notre vie, ça ne contamine pas notre vie. Au pire, ça contamine une nuit, hein, si on passe une nuit blanche à lire un livre. Mais disons qu'on n'est pas en danger. Mais où vous avez raison, c'est... ces petites choses-là, tous ces petits actes matériels qui font glisser éventuellement un personnage du côté de la folie, ce sont des choses qui pourraient arriver à peu près à n'importe qui.
Ah oui, et justement, donc, est-ce qu'au fur et à mesure de l'écriture, au fur et à mesure, vous avez dû prendre beaucoup de plaisir, vous aussi, à écrire, parce qu'il y a vraiment des détails fantastiques. Est-ce que vous pensez à l'autre, de l'autre côté, le lecteur qui un jour va découvrir cette histoire et qui va se sentir mal à l'aise? Est-ce que vous avez un petit peu aussi l'impression, on rentre un peu dans la spirale, le créateur, l'écrivain qui manipule son lecteur aussi?
Alors écoutez, enfin, tout ça, c'est des bonnes questions parce qu'elles ouvrent pour un auteur, hein, elles ouvrent à des perspectives qui sont toujours bien intéressantes. Je n'aime pas, si vous voulez, l'idée de la manipulation du lecteur. Je trouve que il y a un contrat tacite à avoir entre un lecteur et un auteur. L'auteur propose un livre, le lecteur qui l'achète ou qui le lit, qui l'emprunte à la bibliothèque, qui le lit, se noue entre ces deux personnages une sorte de contrat qui est l'un me raconte une histoire et moi, pendant le temps où il me raconte cette histoire, je vais jouer le jeu. Je vais être bon public, je vais jouer le jeu. C'est pas une manipulation, c'est un espèce de contrat tacite. Alors moi, je pense beaucoup au lecteur. J'essaye de faire en sorte que le lecteur, quand il y a un rebondissement inattendu, quand le récit se retourne, ce qui est un petit peu ma marque de fabrique, hein, dans mes romans, les choses se retournent souvent comme ça de manière presque entière, hein, presque à revenir, une espèce de révolution narrative. Au moment où ces choses-là arrivent, j'ai envie que le lecteur sourie, j'ai envie que le lecteur se dise « Ah, c'est bien, il y avait une promesse de lecture, il y avait une promesse d'aventure, il y avait une promesse de rebondissement, et mon auteur, il tient sa promesse, alors moi, je tiens la promesse de lecteur, et je continue l'aventure avec lui. »
Et j'aime bien, vous avez employé tout à l'heure un mot qui va parfaitement à ce livre, c'est aussi le côté ludique, le mot « jeu ». Qui va très bien, où il y a un jeu du chat et de la souris entre deux ou trois personnages, on ne sait pas trop. Au départ, tout du moins, on va le découvrir petit à petit. Et puis, c'est vrai que le style, la narration est totalement ludique. Et on sent que
vous avez tout à fait raison. En fait, si vous voulez, ce que je voudrais bien, enfin, idéalement, ce que j'aurais voulu faire, c'est un livre dans lequel le lecteur soit suffisamment pris pour être dans l'histoire, mais en même temps, dès qu'il le pose, qu'il se dise, je suis en train de lire une histoire qui est bien ficelée et le gars il fait bien son boulot et il m'a promis une histoire et il tient le pari, il fait le job. Et en même temps, dès que ce lecteur idéal revient dans le livre, j'ai envie qu'il soit dans l'histoire au point de complètement oublier qu'il est en train de lire une histoire et qu'il soit l'un des personnages qu'il est en train de lire. Et cette espèce de va-et-vient entre la réalité et la fiction, c'est, je trouve, moi, pour le lecteur, ce qui est le plus enthousiasmant, c'est le moment où on est à la fois un lecteur extérieur du livre et en même temps complètement identifié à un personnage qui a peur, qui vit des aventures. Je trouve que c'est finalement la magie de la lecture, c'est celle-là, quoi.
Oui, et je trouve qu'en plus, ce genre du roman noir correspond bien à ses attentes. Alors, roman noir, et moi j'ai deux références d'un même réalisateur d'ailleurs, à deux moments, au moment où on a le journal, la deuxième partie, et puis après pendant tout le livre, par rapport à la folie, j'ai pensé à deux très grands films d'Hitchcock qui sont un, Fenêtre sur cour pour le voyeurisme, et puis l'autre, Psychose. Et est-ce que vous avez, enfin, c'est aussi, Hitchcock est une de vos références?
Ah ben mais totalement, vous avez très très bien vu. En fait, vraiment, hein, je quand j'écrivais le livre, je me disais, voilà, ce qui serait vraiment idéal, ça serait qu'un Hitchcock d'aujourd'hui lise ce truc-là et dise, oh, je vais le tourner, quoi. Voilà, j'ai envie de faire cette histoire.
Ben, je le souhaite, effectivement, parce que c'est vrai qu'il faudra trouver un bon.
Cronenberg,
il faudra trouver un très bon. Il faudra trouver un bon, parce que le roman est ficelé d'une telle manière que ça va pas être très facile à adapter. Mais si vous voulez, vous avez totalement raison, c'est j'avais rendu hommage dans mon premier livre à des grands romanciers du roman policier, du roman noir, puisque l'intrigue elle-même portait sur le roman. Et dans ce deuxième, ce que j'ai voulu faire, c'est me rapprocher plutôt du cinéma que j'ai aimé. Alors c'est un cinéma un peu daté aujourd'hui, Hitchcock, mais vous avez très bien vu, j'aimerais bien, si vous voulez, que ça soit un livre très cinématographique et qui collerait bien avec ce qu'un Hitchcock d'aujourd'hui pourrait avoir envie de tourner, c'est-à-dire tomber dans les méandres, hein, de l'inquiétude, de l'angoisse, en sachant que tout ça, c'est du jeu, c'est du ludique.
Cronenberg, non, ça irait pas bien, Cronenberg?
Cronenberg, oui, mais bon, on va le contacter, bien sûr, il est dans notre...
Oui, absolument, je compte sur vous. Hein.
Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, on parlait de Psychose d'Hitchcock, donc un des sujets, c'est la folie. J'aimerais que vous me commentiez cette phrase que vous avez écrite. « Il n'y a qu'une seule maladie mentale, 2. La famille. » C'est quelque chose qui m'a...
En fait... Oui, ça paraît comme ça drôlement péremptoire, hein. Mais enfin, quand vous y regardez de près, c'est assez vrai. En fait, si on met à part les maladies organiques, hein, c'est-à-dire maladies génétiques, les maladies organiques, toutes les maladies d'ordre psychique viennent finalement de ce que nous sommes. Or, ce que nous sommes, avant tout, c'est le résultat de notre éducation, de l'endroit où on a vécu, des gens qui nous ont élevés, des gens qu'on a rencontrés dans notre plus jeune âge. Finalement, toutes nos maladies mentales, au sens général du terme, hein, toutes nos maladies mentales viennent de notre origine, et notre origine, c'est la famille. La famille, c'est la seule chose qui rend les gens fous. Après, une fois qu'ils sont plus grands, après il y a un deuxième étage, je pourrais dire, c'est ce qui va rendre fou après, c'est l'institution, pour moi c'est l'entreprise. Hein. Oui. Mais la première maladie mentale, c'est d'abord la famille.
Tout à fait, oui, c'est intéressant, ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est vrai que, théorie très intéressante, et c'est vrai que c'est aussi notre entourage le plus proche, donc celle qui nous regarde, celle qui nous façonne, effectivement.
Bah, tout à fait, et puis les deux personnages, finalement on le découvrira ça à la fin du livre, mais tous les deux, les trois personnages qui sont là, finalement tous vivent aujourd'hui, dans le présent, quelque chose qui n'est jamais finalement qu'une maladie très ancienne qui s'appelle l'enfance.
L'enfance, exactement, oui. J'ai parlé de manipulation tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des moments, quand on arrive à la fin et qu'on connaît quel est le vrai, réel grand méchant, on a vraiment l'impression que vous êtes rentré en empathie avec ce personnage. Est-ce que vous êtes parti de quel personnage, sans citer de nom? Est-ce que vous aviez envie de décrire la perversité du manipulateur ou la détresse du manipulé?
Alors, ben écoutez, peut-être même un troisième terme qui serait la détresse du manipulateur. C'est-à-dire, finalement, vous savez, rappelez-vous Alexandre Dumas, rappelez-vous le comte de Monte Cristo. Voilà un homme qui va consacrer une partie essentielle de sa vie à mener une vengeance absolument terrible, puisqu'elle touche plusieurs personnes. Il va se venger d'une manière systématique, mais à mesure où il se venge, il a le sentiment que sa vengeance, finalement, disparaît, se liquéfie, comme si finalement il avait d'abord été porté par une grande idée, mais dans la réalité, une fois que les choses se font, on se rend compte que ce qui comptait, c'était ce qu'on en pensait, c'était la façon dont on l'avait préparé. Et finalement, le comte de Monte Cristo termine sa vengeance presque épuisée, ça finit d'une manière presque métaphysique. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé, et ce que j'ai voulu faire, c'était, on parle là de la fin du livre pour ceux de vos auditeurs qui auront la gentillesse de le lire, c'est de montrer que on peut être un manipulateur, on peut être un grand méchant, mais in fine, à la fin, quand on se retourne vers l'homme qu'on a été, avant tout, un grand manipulateur, c'est d'abord quelqu'un d'extrêmement malheureux. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de dégâts, quelqu'un qui peut faire beaucoup de mal autour de lui, mais avant tout, c'est quelqu'un de très malheureux.
Et je crois que vous tombez dans un des codes qui nous plaît tant dans le roman noir, c'est-à-dire l'absence de manichéisme, où est le bien, où est la frontière entre le bien et le mal, le noir et le blanc, et montrer que quand on va dans le tréfonds de l'âme humaine, on ne peut jamais être péremptoire et donner des avis
tranchés. Absolument, alors ça n'excuse pas la méchanceté, ça n'excuse pas le crime, mais ça explique. Et puis ça montre finalement, et ça, je crois que c'est une des vertus du roman noir, ça montre finalement que ces gens qui sont des criminels, qui sont des manipulateurs, qui sont des grands pervers, le fait de comprendre leur malheur ne veut pas dire excuser leur méchanceté ou excuser leur crime. Ça veut dire simplement se montrer humain vis-à-vis de l'humain, en face de l'humain.
Oui, je crois qu'il y a, je ne sais plus qui disait un roman noir, parce que beaucoup prennent le roman noir pour des choses amorales avec le A privatif, alors que le roman noir peut être immoral, mais finalement il n'est jamais amoral, il donne toujours un point de vue.
Avant tout, c'est une plongée dans la psyché, c'est une plongée dans l'ambiguïté qui est celle de chacun d'entre nous, moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, nous avons tous comme ça des grandes ambiguïtés, et puis les événements de l'existence nous conduisent parfois à faire des choses, et voilà, on n'est pas manichéen. Si l'âme humaine était manichéenne, ça serait absolument merveilleux, la vie serait extrêmement simple, et si la vie est compliquée, c'est justement parce que la nuance existe dans nos existences et que c'est elle qui va dominer notre destinée finalement.
Bien, le maître, l'émission touche à sa fin, donc je vais vous remercier et puis redire les coordonnées, le titre et l'éditeur du livre. En tout cas, moi, L'existence est dure, mais quand il y a des livres comme ça qui passent sur notre chemin, merci à vous parce que c'était un grand plaisir de lecture et c'est un livre qu'on a vraiment beaucoup apprécié.
Merci beaucoup de votre accueil, merci de votre gentillesse.
Pierre Lemaitre, merci, au revoir.
Au revoir.
Donc je rappelle le titre, Robe de mariée et Pierre Lemaitre, qui vient d'être avec nous, et c'est publié chez Calman Levy. Et c'est vraiment voilà. Un roman qui on peut pas s'arrêter quoi. C'est très très bien fichu quoi.
Et je voulais juste décrire la couverture au cas parce que c'est un grand œil marron, grand ouvert avec des beaux cils
et qui regarde une silhouette.
Voilà, et sur le côté en plus. Donc c'est...
Voilà, l'émission se termine. Bonne lecture et à dans 15 jours. Agora,